Mercredi 27 juillet 2022, merci de nous recevoir pour cette édition de 17h à travers nos 52 radios partenaires. Au micro, je suis Rukayat Abdraman. À la une de ce journal, la ville de Niamey connaît depuis quelques jours un arrêt des activités pluvio-orageuses, une situation qui inquiète les populations. Le responsable des prévisions à la direction de la météorologie nationale explique. Plusieurs centaines d'enfants nigériens mineurs refoulés d'Algérie entre janvier et mai sont pris en charge à Agadez par la direction régionale de la protection de l'enfant. Le point sur leur situation dans un instant. Dans la partie magazine de ce soir, il sera évoqué la gestion des conflits champêtres à travers la sensibilisation des différents acteurs au Niger. Bonsoir, messieurs, dames, et bienvenue dans ce journal. Je l'annonçais, depuis quelques jours, une pause pluviométrique est constatée sur la ville de Niamey. Celle-ci n'a pas d'explication spécifique, mais quelques hypothèses sont avancées. Ousmane Bawa, responsable des prévisions à la direction de la météorologie nationale, est interrogé par le studio Kalangou.
La première piste, c'est le fait que le microclimat de Niamey a changé. Avant, tout autour de Niamey, nous avons une végétation, nous avons des champs. Et lorsqu'il y a la végétation, il y a la pluie. Malheureusement, nous avons perdu cet aspect. Deuxièmement, Niamey s'est agrandi. Il peut y avoir la pluie sur Otaminus, il n'y a pas eu la pluie à Kwara Kano. Il peut y avoir la pluie à Yantala, il n'y a pas la pluie à l'aéroport. Le plus souvent, les systèmes qui nous viennent de loin, par exemple un système qui nous vient de Difa, qui fait 1000 km, et si... Il trouve qu'à Niamey, déjà, il y a eu la pluie sur un ou deux quartiers de Niamey. Il va dévier. Il sort au sud, sort au nord. Pourquoi ? Parce qu'il y a la fraîcheur qui est là. Et cette situation n'est pas favorable à ce qu'un système qui vient puisse pénétrer la ville de Niamey. Soit le système meurt, ou bien il va s'affaiblir. Mais la période du 28 juillet au 3 août, c'est une période très favorable pour le développement d'activités pluviales, surtout sur les régions de Dosso, Niamey et Tillabéri.
La suite de ce journal, les maraîchers de la ville d'Arlit rencontrent des difficultés pour exercer leurs activités depuis la fermeture de la mine de la Kominak, la compagnie minière d'Akouta, en mars 2021. La société aurait coupé l'eau qui alimente les sites au niveau desquels la population s'approvisionne pour ses cultures de contre-saison. Abdraman Maouli, maire d'Arlit, précise que la mairie suit de près les travaux de l'équipement des puits en panneaux solaires. Il est au micro d'Ousmane Oumarou.
Ce n'est pas de nouveaux puits que la Kominak a pris l'engagement de faire. Ce sont les anciens puits qui fonctionnent avec l'électricité que la Kominak devait réinstaurer en système d'énergie solaire. L'équipement est placé, ils sont en train de construire des bassins de retenue d'eau. Certains sont déjà finis et d'autres sont en réalisation. C'est le délai de finalisation qui n'est pas respecté. Compte tenu de cette situation, la Kominak a procédé au basculement de l'eau potable qu'elle utilisé qui est dirigé vers les jardins. Mais le volume n'est pas suffisant pour couvrir le besoin du site. C'est ce qui a entraîné l'achèvement de ces jardins. Notre préoccupation, nous voudrions voir dans quelques jours que le forage qui a été équipé du système solaire soit rapidement mis en fonction, que l'entrepreneur à qui la Kominak a accordé le contrat s'attelle activement pour que dans 2 semaines, la distribution de l'eau soit effective dans ces jardins.
Avec la saison des pluies qui s'installe au Niger, les autorités sanitaires de la région de Difa sont sur le pied de guerre pour prévenir le paludisme. Après la première dose de vaccin contre la maladie, il revient aux parents d'enchaîner les 2 dernières selon les responsables sanitaires. Seulement, ceux-ci négligent d'où cet appel du coordonnateur régional de lutte contre le paludisme. Lamine Issoufou est au micro de Guidi Abdraman.
Vous savez, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de vaccin contre le paludisme. Alors, ce sont ces produits qui tiennent lieu de vaccins pour les enfants. Quand les agents de santé viennent, ils donnent la dose d'une seule journée aux enfants et ils confient pour la 2e et la 3e journée aux parents. Et j'attire l'attention des parents, il faut qu'ils donnent toutes ces doses aux enfants. Si l'on ne les fait pas, c'est comme si on n'a rien fait. La plupart des parents ne donnent pas ces produits aux enfants, ils les déposent. La prise de ces produits n'empêche pas aussi de mettre les enfants sous moustiquaire. Le paludisme existe à chaque saison, mais il est plus important pendant la saison des pluies, car les eaux sont partout. Je demande donc à la population de bien assainir les ménages afin de freiner la prolifération des moustiques.
909 enfants mineurs nigériens non accompagnés ont été refoulés de l'Algérie de janvier à mai 2022, selon les responsables régionaux de la protection de l'enfant d'Agadez. Ces enfants seraient acheminés à la frontière algéro-nigérienne dans des conditions difficiles. Selon le directeur régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant d'Agadez, Amadou Al-Hassan, ces enfants refoulés à Agadez sont traumatisés. Il est au micro de Moussa Maman.
Cette année, nous avons pris en charge pendant les 5 mois, nous sommes à 909 enfants non accompagnés pris en charge, dont 568 garçons et 341 filles. La majorité de ces enfants proviennent de la région des Andes. Nous recevons des enfants qui ont vécu des situations traumatisantes, qui n'arrivent même pas à parler, dues parfois aux détentions des enfants dans les camps avant leur refoulement, parfois des situations de confiscation de leurs biens, ou bien la maltraitance que l'enfant a subie. Par exemple, s'il est avec un adulte qui l'exploite, donc tout ce qu'il gagne, l'adulte confisque, et s'il n'a pas eu une bonne recette, il est soumis à des châtiments. Donc les enfants viennent avec toutes ces séquelles-là et il faut des activités socio-récréatives et psychosociales pour les stabiliser.
Parlons éducation à présent. 27,18%, c'est le taux global national de réussite aux examens du brevet d'études du premier cycle BEPC cette année au Niger. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui l'a annoncé hier dans un point de presse. Le gouvernement envisage de prendre des mesures adéquates pour la réussite des examens à l'avenir, a indiqué professeur Natatou Ibrahim, ministre de l'Éducation nationale, des propos recueillis par Sakina Gazibo.
La performance relative du privé sur le public s'explique entre autres par la rigueur dans la gestion du personnel, l'utilisation des meilleurs enseignants du public, le recrutement sélectif des élèves à partir d'une certaine moyenne. Il faut se féliciter qu'aucune fuite de sujets d'examen ou fraude pouvant entacher la crédibilité de cet examen n'a été enregistrée. C'est le lieu de féliciter tous les acteurs impliqués dans l'organisation, dont la Halcia et les forces de défense et sécurité. Toutefois, l'heure n'est pas à l'autosatisfaction car ces résultats sont loin des objectifs poursuivis par le gouvernement. Pour mieux réussir cet examen à l'avenir, mon département ministériel entend relire les textes relatifs à l'organisation du BEPC et élaborer un guide pratique pour son déroulement, digitaliser l'organisation et former les acteurs, analyser les résultats, tirer les leçons et prendre les mesures correctives nécessaires.
Un atelier de lutte contre la corruption sur les frontières a débuté ce matin à Birninkoni à l'initiative de la Haute Autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia et une ONG allemande. Cette rencontre regroupe les communes du Niger frontalières avec les pays voisins. Ceci pour mettre fin à la corruption sur les frontières. Mohamed Sani Bakabe, secrétaire général à la Halcia, au micro d'Asmane Moussarzika.
Nous avons eu à mener beaucoup d'activités de sensibilisation sur l'importance de détenir des papiers pour voyager à l'extérieur. Il y a de cela 2 ans. C'est ce que nous sommes venus rappeler à la population à cette présente rencontre. Nous voulons échanger, voir comment améliorer notre travail avec nos partenaires qui sont les communes, les clubs anticorruption, les radios communautaires et autres structures de la société civile. L'objectif est de mettre fin aux difficultés que les gens rencontrent lors des voyages à l'extérieur. Les textes nous donnent le droit de voyager dans nos pays de l'espace CEDEAO, mais il faut d'abord avoir les papiers. Nous voulons donc lutter contre la corruption au cours des voyages dans cet espace, mais par la voie de la sensibilisation.
Hors de nos frontières, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat en 1987 de son prédécesseur Thomas Sankara, a demandé mardi pardon à la famille de ce dernier, mais aussi à l'ensemble du peuple burkinabé pour les souffrances endurées pendant ses 27 ans. Pendant ses 27 années au pouvoir. Cette demande de pardon est diversement appréciée au Burkina Faso et divise l'opinion selon Paul Miki Rwamba, éditorialiste et directeur général d'Omega Media à Ouagadougou. Il est joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Elle divise d'ailleurs l'opinion en 2 camps. Le premier camp, c'est ceux qui sont favorables à cette demande de pardon, qui l'ont même déjà acceptée à travers donc des micro-trottoirs que les médias burkinabés ont réalisés, à travers aussi les réactions sur les réseaux sociaux. Et ils expliquent cela par le fait que c'était le maillon manquant de cette chaîne de réconciliation. Mais il y a de l'autre côté, c'est burkinabés également qui constituent une certaine opinion publique. Ils posent donc un problème. problème de forme. Beaucoup estiment que si le pardon était sincère, il devrait sortir de la bouche de Blaise Compaoré, qui d'ailleurs, selon certains, a manqué l'occasion, quand il était à Ouagadougou il y a quelques semaines, de prononcer effectivement cette demande de pardon directement au Burkinabé et à la famille du président Thomas Sankara. Donc la suite pourra être effectivement une grâce présidentielle qui pourrait être prononcée par l'actuel chef de l'État. Mais on attend de voir, parce que il est important de rappeler et d'insister sur le fait que cette demande de pardon n'annule pas aucunement la procédure judiciaire qui est engagée contre lui et qui suit son cours normal.
Du sport dans ce journal, le Jangorzo FC et le Liberté FC, deux équipes promues pour la montée en Super Ligue nationale de football au Niger pour la prochaine saison. Le Liberté FC de Niamey a quitté l'élite du football national voilà 20 ans et le FC Jangorzo de Maradi, lui, depuis 6 ans. Les deux équipes sont bien connues dans le milieu du football nigérien. Ces équipes ont, à un moment de l'histoire, pourvu la sélection nationale de MENA en joueurs de classe internationale. L'initiative de support à la stabilité du Niger, NSSI, a organisé à Gaïa en fin de semaine un forum de réconciliation entre éleveurs et agriculteurs des communes de Tanda et de Tunuga. Un forum qui a vu la participation des autorités administratives coutumières et des acteurs pour évoquer l'importance de la culture de la paix et de la tolérance. Al-Bashir Aboubakar, gouverneur de la région de Dosso, sur des propos recueillis par Fadel Alou.
Dosso est une région à forte croissance démographique, avec comme corollaire une insoutenable pression foncière, l'appauvrissement des terres agricoles, l'aménagement des espaces pastoraux, la dégradation des ressources naturelles et l'occupation d'espaces protégés. Cette situation est une véritable préoccupation pour les plus hautes autorités de notre pays et constitue en même temps des enjeux majeurs pour le développement rural et mettre en évidence les défis auxquels il convient de faire face dès l'immédiat afin d'éviter des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles. Tunuga et Tanda font partie des communes de la région qui enregistrent chaque année de nombreux cas de conflits intercommunautaires autour de la gestion des ressources naturelles. Les conflits intercommunautaires sous toutes leurs formes constituent une problématique qui pourrait, s'il n'est pas relevé, entraver notre modèle de vie et les fondements même de notre société, à savoir la solidarité, la tolérance, l'hospitalité et le vivre ensemble.
Et puis la partie magazine de cette édition. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont des problèmes de certaines communautés nigériennes, notamment pendant la campagne agricole. Alors pour gérer ces conflits, les organisations paysannes sensibilisent les différents acteurs pour le respect des réglementations en vigueur au Niger. Le reportage de Rahila Tsoumana et Assouman Aboubakar.
Au Niger, c'est pendant le début de la campagne agricole et à la fin, avant la libération des champs, qu'on enregistre le plus de cas de conflits entre communautés. Zachary Ekoy, secrétaire permanent de la commission foncière communale de Gaïa, énumère les conflits en cette période.
On a les conflits entre agriculteurs et agriculteurs. C'est surtout les trucs de limite entre les champs. Des conflits entre éleveurs eux-mêmes. Ils ont des champs, ces éleveurs. Là, ils se font aussi des dégâts. Il y a des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est toujours les animaux qui pénètrent dans les champs ou dans les champs. La quitter ses limites.
Dans le cas d'un conflit entre agriculteurs et éleveurs, chacun rejette la pierre sur l'autre. Comme en témoignent Issoufa Souley, éleveur, et Assouman Garbaladan, agriculteur.
Les agriculteurs réduisent les couloirs de passage ou sèment autour des mares. Et s'il y a beaucoup d'animaux, certaines vont sûrement échapper à ta vigilance.
La raison des conflits est que l'éleveur ne peut pas empêcher à ses animaux de brouter l'herbe à leur portée et le cultivateur veut protéger ses semis. Parfois, il laisse les animaux sans surveillance. Ceux-ci rentrent dans nos champs. Ailleurs, c'est les aires du pâturage qui manquent ou encore les voies d'accès sont coupées par les villages qui s'agrandissent.
Ces conflits pouvaient être évités, estiment les deux parties.
Nous répondons toujours aux appels des autorités et respectons aussi leurs consignes.
Comme solution, les experts en question agricole ont été recrutés afin de sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs. Chaque zone a été dotée d'un comité de veille et en cas de tort subi, éviter de se rendre justice.
En effet, pour éviter ces situations, des réglementations sont prévues par le code rural et la politique foncière du pays. C'est ce que relève Jibo Benya, président de la plateforme paysanne du Niger.
Il y a d'abord l'étape de la conciliation. Si on ne s'entend pas, on se rabat sur le village. Il y a un comité qui est mis en place. Et leur rôle, c'est vraiment d'évaluer les dégâts constatés. On fait la sommation et on pense qu'on peut te payer tant.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et au revoir.